Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines femmes imaginaient mettre au monde leur enfant dans un cocon douillet, l'accueillir dans la sérénité et le jour de la naissance du bébé, rien ne se passe comme prévu. Déclenchement, contraction intolérable, dilatation insuffisante, épisiotomie, forceps et après, œdème, douleur cicatricielle, abattement, crise de larmes. Certains accouchements laissent des traces physiques ou psychologiques chez la jeune mère. Des gestes, une césarienne en urgence, l'angoisse, des douleurs non soulagées, le sentiment parfois d'être dépossédé son corps. Comment un accouchement peut-il devenir un événement traumatisant? Existe-t-il des moyens de prévenir cette souffrance maternelle avant comme après la naissance? Avec nous en studio, Julie Douchesse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme libérale, accoucheuse en plateau technique à Paris, en région parisienne aussi, à la Garenne-Colombes. Docteur Olivier Ami, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien, également secrétaire général du syndicat des gynécologues et obstétriciens libéraux, et également avec nous en studio, docteur Christian Audou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste. Nous retrouverons en ligne du Niger tout à l'heure le docteur Madeleine Garba, gynécologue obstétricienne à la maternité Issaka Gazobi de Niamey. Docteur Garba qui enseigne aussi à la faculté des sciences de la santé de Niamey. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue. Et notre numéro, bien sûr, pour joindre l'équipe de Priorité Santé. Vos témoignages, vos questions, c'est au 33 1 80 82 75 75. Un accouchement physiologique, difficile, traumatique, comment ce qui devait être un événement synonyme de bonheur peut-il provoquer des séquelles chez une jeune accouchée? C'est bien la question au centre de cette émission. Julie Douchesse, dans les maternités françaises, en général, ce sont la plupart du temps les sages-femmes qui accompagnent ces naissances tant que tout se passe bien. Et c'est donc aussi aux sages-femmes qu'il revient en cas de difficulté, en cas de complication, de faire appel aux médecins. Alors quels sont justement les signes qui vous alertent?
Alors, les signes qui nous alertent le jour de la naissance, lors du travail, ça peut être par exemple des ralentissements du cœur du bébé, signe potentiellement d'une altération du bien-être du fœtus. On peut également avoir des soucis de dilatation au niveau du col, un col qui ne s'ouvre pas correctement, trop lentement ou qui arrête de s'ouvrir également, malgré notre intervention et l'utilisation potentiellement de produits ou de médicaments aidant normalement à cette dilatation. Et le troisième cas pour lequel on peut appeler un gynécologue obstétricien, c'est au moment de la poussée, pendant la poussée, si le cœur du bébé ne nous permet pas d'attendre trop longtemps pour un accouchement naturel, quelquefois on a besoin d'une médicalisation et de l'aide par exemple de forceps pour permettre une naissance avec un bébé en bonne santé.
Alors on va le voir tout au cours de l'émission à quel point la communication est importante. Justement, quand vous avez cette démarche de faire appel au médecin, vous en informez la future maman?
Tout à fait. Il faut toujours, à mon avis, communiquer avec le couple, donc la future famille avec l'enfant à naître. C'est très important de toujours discuter de tout ce qui se passe au fur et à mesure de l'accouchement pour qu'ils puissent intégrer les différentes options sans vivre de traumatisme. Le consentement éclairé du couple est capital pour bien vivre les actes médicaux qui peuvent être pratiqués.
Docteur Olivier Ami, avant ces signes d'alerte, pendant le déroulement de l'accouchement, est-ce qu'il y a des facteurs physiques, justement, donc avant d'entrer en salle de travail, de naissance, comme on dit, est-ce qu'il y a des facteurs physiques qui doivent inciter à prendre des précautions particulières?
Alors, on sait que les antécédents comptent beaucoup parce que quand une précédente grossesse a donné lieu à un accouchement difficile, il est pas improbable que ça se reproduise, premièrement. Deuxièmement, les conditions de l'accouchement précédent, s'il y a eu une césarienne, doivent nous inciter à être prudents. Si l'utérus est cicatriciel, s'il y a eu une chirurgie de l'utérus, même pour des fibromes ou pour tout autre motif. Et puis enfin, si on a diagnostiqué pendant la grossesse que il y avait une difficulté prévisible pour l'accouchement, que l'enfant allait être trop gros pour le canal de naissance, notamment son pôle céphalique, eh bien oui, il faut redoubler de vigilance sur la surveillance du travail. Et donc on a des outils pour surveiller le déroulement d'un travail.
Et puis il y a bien sûr les femmes qui présentent des problèmes de santé, par exemple d'hypertension. Tous ces cas-là sont très particuliers, des femmes diabétiques par exemple aussi.
Il y a des pathologies maternelles qui sont d'ailleurs plus représentées au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge par rapport à la grossesse. Ça comprend effectivement l'hypertension, les désordres immunitaires et puis le diabète évidemment. Il peut y avoir d'autres circonstances qui peuvent être fœtales ou maternelles. Et donc bien sûr, ce sont des circonstances qu'on essaie au maximum d'anticiper pour pouvoir les prendre en charge correctement au moment de l'accouchement.
Et précisément, les femmes disent que c'est le manque d'anticipation dans la plupart des cas qui peut... Ce manque d'anticipation qui peut donc provoquer un choc, voire même un traumatisme. On parle de la communication, mais il y a aussi toutes ces informations qui n'ont pas forcément été données avant.
Alors, c'est vrai que une grosse partie d'un traumatisme, c'est aussi lié au défaut d'information. C'est le même combat que l'accouchement sans douleur en son temps. Des médecins se sont emparés de l'information des patientes et puis de leur formation aussi pour leur expliquer ce qui les attendait. Il est vrai que jusqu'à maintenant, on a pu manquer de moyens pour effectivement déterminer à l'avance ce qui allait se passer dans un accouchement. C'est l'objet de toutes les recherches que nous menons dans mon équipe, par exemple, pour essayer de déterminer en imagerie ce qui va pouvoir permettre de concilier la volonté des parents d'avoir un accouchement le plus naturel possible et les possibilités médicales de les accompagner sur ce projet. Je crois que quand on a 9 mois pour préparer des parents et même notamment 10 heures avant un accouchement, on peut toujours marteler une information, on peut toujours recueillir un consentement et c'est ça qui est important. Et la qualité de l'information est aussi une chose extrêmement importante. On ne peut pas aujourd'hui se baser sur l'abondante littérature qui est générée par un tas de groupes, de lobbies qui ne donnent pas forcément l'information utile pour les couples où on nous vend quasiment qu'il faudra retourner accoucher dans sa cuisine. Je ne suis pas persuadé en tant que médecin, en tout cas moi je ne sais pas le faire un accouchement à domicile sans moyens. En revanche, je comprends tout à fait qu'il y ait une volonté des patientes de démédicaliser un accouchement parce que si c'était possible que ça reste une fête et qu'on se focalise sur ce qui est important, c'est-à-dire la naissance d'un enfant, et pas sur le geste médical ou sur l'abondante précaution que vont prendre les équipes médicales pour entourer cet accouchement.
Alors, on a parlé des facteurs physiques tout à l'heure. Docteur Christian Oudou, je m'adresse donc aux psychologues, aux psychiatres. Est-ce qu'il existe aussi des facteurs psychosociaux qui doivent pousser les acteurs de santé à une démarche en amont, peut-être à davantage de précautions ?
Certainement, il y a toute une histoire dont on doit tenir compte, une histoire de la future parturiente, parce que c'est vrai que la grossesse s'inscrit dans le contexte même d'une histoire dans laquelle cet événement, cet heureux événement, est de toujours attendu, puisque de toute façon ça renvoie bien à l'identité de femme. Et donc très certainement qu'il y a à être attentif à comment justement cet événement a pu devenir possible, ou alors quelquefois se produit dans des situations de forçage. Hein. Donc ça, c'est effectivement des facteurs et des arguments dont on doit tenir compte et qui sont à intégrer dans le cadre même d'une préparation de l'accouchement.
Ce n'est pas simplement un corps qui vient accoucher, c'est vraiment surtout quelqu'un qui a un vécu, et puis ce sont aussi plusieurs personnes qui entrent en ligne de compte. Le bébé qui arrive, mais bien sûr aussi le père.
Et c'est un corps qui n'attend que de parler, hein, la plupart du temps. Le corps, ça parle. Et là, ça va parler très particulièrement, et ça va parler d'un événement qui est attendu de toujours, qui est attendu comme le plus beau jour de la vie. Alors si ça se transforme en une situation qui prend toutes les allures d'une catastrophe, il y a tout lieu d'en attendre des conséquences plutôt fâcheuses et durables. Hein.
Alors on dit souvent la grossesse n'est pas une maladie, malgré tout ça se termine parfois par des opérations. 20% de césariennes en France. Docteur Olivier Ami, est-ce que c'est beaucoup 20% de césariennes par rapport à d'autres pays industrialisés? Est-ce que on sait d'ailleurs quelle proportion de ces césariennes sont réalisées en situation d'urgence?
Alors sur la proportion de césariennes en elle-même, je pense que c'est un petit peu plus que 20% actuellement. On doit être autour de presque 24, en tout cas en Île-de-France. La proportion de césariennes programmées est d'environ 10% et de césariennes en urgence est de 15% à peu près, donc sur ou de 14% on va dire pour respecter les 24%. Actuellement, ce qui pose problème, c'est de savoir dans ces césariennes en urgence, si on ne les faisait pas, quel serait le taux de mortalité des enfants, le taux de blessures chez les mamans. Et il est fort probable qu'il serait très important. Je pense que ce qu'on a pu constater, nous, dans les études qu'on a faites, on a fait les premiers accouchements sous IRM français pour essayer de comprendre ce qui se passait pendant un accouchement. Et ce qu'on a constaté, c'est que 100% des enfants, au moment de la naissance, ont une compression du cerveau au moment du passage du détroit moyen. Et donc, il y a un chevauchement des os du crâne qui a lieu à ce moment-là. Et donc, si cette situation est intense et ou prolongée, on peut avoir des catastrophes. Donc, la question de la césarienne qui est réalisée en urgence, parce qu'on dit toujours qu'un accouchement c'est violent, mais il faut dire pourquoi c'est violent. C'est violent parce que le gynécologue obstétricien, il est dépositaire du capital neurologique d'un enfant et du capital périnéal de sa mère. Et des conséquences que ça va avoir pour le futur. Donc c'est très délicat de juger de cela. Moi je n'attaque pas le forceps qui permet d'accélérer la deuxième phase du travail, ni la césarienne en urgence qui permet de sauver des vies. Parce qu'en réalité, le travail de l'obstétricien, c'est justement d'éviter que ces forces s'appliquent pendant un temps trop long ou qu'elle soit trop importante.
Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de témoignages hein, de femmes qui nous ont joints sur le site de Priorité Santé et qui parlent d'ailleurs de mortalité infantile. Leurs enfants sont morts parce qu'on a trop tardé, parce qu'on a trop attendu. Et même quand une césarienne a été réalisée, on avait attendu tellement longtemps que le bébé était déjà décédé. Césarienne en urgence, en tout cas, c'est l'expérience qu'a vécue Majda. Elle a 38 ans. Elle est mère de deux enfants, après un premier accouchement déjà compliqué au cours duquel elle a subi une césarienne, là aussi en urgence. Elle avait préparé la naissance de sa deuxième fille avec beaucoup de soins. Elle avait changé d'établissement, elle avait établi un projet de naissance. Mais le jour venu, ce deuxième accouchement s'est une nouvelle fois soldé par une véritable épreuve dont la seule évocation continue de la bouleverser.
Je suis tombée sur une sage-femme qui était très gentille. Nous avons essayé le ballon, nous avons essayé la piscine, de l'homéopathie. J'ai eu le droit aussi à une séance d'acupuncture pour essayer d'aider à la dilatation. J'ai eu un problème avec les contractions qui étaient très intenses et le cœur du bébé montrait qu'elle commençait à être en souffrance. Le personnel m'a dit qu'il faudrait peut-être essayer la péridurale malgré votre souhait exprimé de ne pas la faire parce que ça pourrait faciliter les choses et surtout empêcher votre bébé de trop se fatiguer. J'étais tellement dans la souffrance que j'ai dit « Ok, allons-y pour la péridurale, de toute façon je ne vais pas tenir à ce rythme-là ». L'anesthésiste arrive, me demande de faire le dos rond. Je n'y arrive pas, j'avais trop mal. Il me tape sur le dos en me disant « Maintenez cette position !» Soit vous maintenez la position, soit je vous laisse souffrir. Hein. Moi, je ne vais pas rester à attendre. La gentille sage-femme qui m'accompagnait depuis le début m'entoure de ses bras pour m'arrondir le dos et me souffle dans l'oreille. « N'écoutez pas, c'est un con !» Malgré ça, je bougeais quand même un peu. Et du coup, il y a été d'un coup, il a vraiment rentré l'aiguille, mais d'une façon assez brutale, puisque j'ai hurlé. J'ai eu mal, j'ai senti une décharge. Il me dit, c'est pas possible. Il s'en va. Bon, après, c'était bien. La gynéco vient dans ma chambre, m'explique que le bébé est en souffrance et qu'on ne va pas pouvoir attendre plus longtemps, qu'il va donc falloir partir en césarienne. On me descend dans la salle d'opération. L'anesthésiste m'explique qu'il va ajouter un petit peu de produit. Il m'a dit « je vais rectifier l'anesthésie ». Je sens le produit passer. Je lui dis « ça ne va pas ». Il me répond « vous stressez, tout va bien ». Je lui dis « je ne me sens pas bien ». Il me répond, vos constantes vitales sont bonnes, arrêtez de paniquer. Mais c'était pas ça, je lui réponds, j'insiste, je lui dis, je vous dis que je me sens pas bien, je n'arrive pas à respirer. Il me dit de me détendre, je lui réponds, je n'arrive pas, et je me souviens de ne pas avoir pu terminer ma phrase. Parce que j'étais en train de faire une réaction allergique à l'anesthésie qui m'a conduit au coma.
Excusez-moi.
Ils m'ont volé mon accouchement. Malgré la césarienne, ça aurait pu se passer correctement. J'aurais pu voir mon enfant naître quand même. S'ils m'avaient écouté, ils ne m'ont pas écouté. Ils ont écouté leur machine qui disait que les constantes vitales étaient bonnes. Et du coup, je suis descendue dans le bloc, j'étais enceinte. Je suis remontée sans le ventre vide et sans bébé à côté. Mon bébé, j'ai été autorisée à le voir que 15 heures après la naissance. Et j'ai vu un bébé dans une couveuse avec des fils accrochés partout. Et il fallait faire la liaison que la chose qu'avait partagée 9 mois avec moi, c'était cette chose avec des fils et des tubes partout. C'était un peu dur quand même. Je ne veux plus jamais accoucher de ma vie. C'est non, je suis même à me dire que si je tombe enceinte, je ne garderai pas cet enfant. Je ne veux pas accoucher. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est des réponses. Et je sais que sans réponse, j'arriverai pas à aller de l'avant. Je peux continuer à aller chez la psy pendant fort longtemps. Ça ne résoudra pas le problème. Le problème sera résolu quand je saurai ce qui s'est passé. J'ai dû batailler pendant plus de 3 mois pour avoir enfin mon dossier médical. Et mon dossier médical ne comprend rien. Si on lit le dossier médical, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de difficulté. Moi, je ne suis pas dans une démarche pécuniaire. Je ne demande pas d'argent à l'hôpital. Je ne veux pas faire de procès ou quoi que ce soit. Je demande juste des explications et qu'ils reconnaissent que la patiente doit être écoutée dans sa globalité.
Témoignage de Majda, recueilli par Philippine Lebret, une mère bouleversée, choquée, qui a renoncé à tout projet de maternité. Docteur Olivier Ami, ces derniers mots, on a pas mal entendu parler de ce malaise ressenti par certaines mères lors d'une naissance. On a parlé des violences obstétricales après la polémique qu'a lancée notamment au mois de juillet la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa. Est-ce que certaines naissances imposent finalement une certaine forme de rudesse?
Alors, je crois que le débat qui a été soulevé notamment par Marlène Schiappa est tout à fait licite. Je ne connais pas de gynécologue obstétricien parmi mes collègues qui m'ait dit qu'il n'ait jamais constaté de ce qui a été dépeint comme des violences obstétricales. Alors, le mot violence, je ne sais pas s'il est adapté parce que violence, ça impliquerait beaucoup
d'intention,
de volonté. Là, il y a beaucoup de choses qui sont involontaires, notamment de la part des praticiens. Israël Nisan l'a reconnu, il a essayé d'y apporter des explications concernant les conditions d'urgence dans lesquelles parfois on est plongé. Je crois que c'est un combat qui est vraiment licite, pour lequel il est important que la parole des femmes se libère. Je crois qu'aucun gynécologue obstétricien ne le conteste, que vraiment la profession dans son ensemble est prête à participer justement à l'amélioration des pratiques. Peut-être qu'on n'avait pas effectivement les moyens, jusqu'à une période très récente, au moins de prévenir l'urgence de ces situations, parce que c'est aussi très lié, hein, la désorganisation des services et des institutions qui est décrite, qui découle de cette urgence pour laquelle on n'a pas apporté en temps et en heure une information éclairée, on n'a pas pu forcément recueillir le consentement alors qu'on a du temps pour le faire. Donc c'est un petit peu sur cela qu'on travaille actuellement beaucoup, c'est sur de quelle manière on va pouvoir expliquer, anticiper ce qui va pouvoir arriver pour un accouchement et préparer ses parents à une naissance d'un enfant qui lui n'y est pour rien et qui par contre la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on peut démédicaliser un accouchement, par exemple, tout en gardant le même niveau de sécurité. Il y a une remise en cause, j'ai vu encore ce matin, des déclenchements, des accouchements, des maturations. Et le risque de traumatisme, il naît de l'absence d'information et de consentement, mais aussi du risque de mort ou de blessure qui peut concerner la maman
ou le bébé. Question de sécurité primordiale. On va en reparler, on continue ce sujet des accouchements traumatiques. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le point de l'actualité.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à la lutte contre les accouchements traumatiques. Toujours avec nous, Julie Douchesse, sage-femme libérale, accoucheuse en plateau technique en région parisienne. Le docteur Olivier Ami, gynécologue obstétricien. Le docteur Christian Audoux, psychiatre et psychanalyste. Avant le flash d'information, on a donc évoqué le ressenti de certaines femmes suite aux difficultés rencontrées au cours de leur accouchement, Julie Douchesse. Donc ce contexte hospitalier, en France, des services très performants sur le plan technique, des conditions de travail parfois difficiles pour les soignants. Est-ce que finalement les accouchements sont-ils aujourd'hui plus standardisés que ce qu'ils ne l'étaient il y a encore 10 ou 15 ans? Est-ce qu'il y a des procédures?
Oui, tout à fait. On fonctionne avec des protocoles d'établissement pour les naissances. Donc, tout est très standardisé. Dans certaines structures où j'ai eu l'occasion de travailler, on préparait même du matériel avant que les patientes arrivent et de manière systématique, on mettait en place certaines choses au moment de l'arrivée des couples. On est obligé de rentrer dans des normes car les sages-femmes donc on a en fait des sages-femmes qui s'occupent de plusieurs patientes en même temps, on peut être amené à s'occuper de 3, 4 voire quelquefois 5 patientes en même temps lorsque les services sont très remplis et pour pouvoir assurer la sécurité donc de la femme et de l'enfant, on est obligé de standardiser les choses puisqu'on a très peu de temps à passer avec chaque femme, avec chaque couple par heure. On aura 10 minutes, un quart d'heure à passer avec chacune, sachant que dans ce temps-là, il y a également les papiers à remplir qu'on doit avoir sur le plan médico-légal qui sont indispensables.
Alors, on voit toutes ces questions matérielles qui interviennent à ce moment exceptionnel, un contexte exceptionnel dans la vie du couple, dans la vie des femmes. Docteur Christian Audoux, on touche à l'intime, le ressenti des mères primordial. Les mots comptent énormément, on l'a dit, même au-delà des gestes. Est-ce que, justement, on peut parler d'une amplification émotionnelle, une vulnérabilité accrue? D'ailleurs, certaines femmes trouvent qu'on les prend un petit peu pour des enfants à ce moment-là, qu'on ne leur fait pas complètement confiance, et c'est aussi pour ça qu'on ne les informe pas toujours correctement.
Ce que vous venez de dire, ça renvoie essentiellement déjà à cet événement qui est primordial, vous avez utilisé le terme de primordial, qui est la grossesse elle-même et qui justement est d'une très grande complexité en ce qui concerne la dynamique psychologique et la psychodynamique, donc, et en particulier avec par exemple ce qu'un grand psychanalyste qui s'est beaucoup occupé de mères et d'enfants et de petits enfants, c'est la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire et qui parle en quelque sorte d'une hypersensibilité qui se met en place chez cette dame qui attend. Et d'ailleurs, en entendant ce qui se dit, on entend tout de suite cette espèce de paradoxe, cette espèce de contradiction qu'il y a entre un événement attendu, comme on le disait tout à l'heure, de toujours, et puis un événement qui va se transformer en quelque chose qu'on ne peut pas recouvrir autrement que par le terme d'urgence. Il y a une contradiction entre l'attendu et l'urgence. Donc comment, et c'est ce que disait le docteur Ami tout à l'heure, comment est-ce qu'on pourrait faire au mieux pour pouvoir, si je puis dire, prévenir la complication de ce passage par ce qu'il appelait le détroit de passage de l'enfant lors de la naissance, afin que justement on puisse éviter le plus possible les situations d'urgence dans lesquelles de toute façon on ne peut pas anticiper du stress et dans l'équipe qui est là pour aider la parturiente et aussi évidemment donc du coup chez la dame en question.
Alors un autre regard si vous le voulez bien tout de suite, on va prendre la direction du Niger où on retrouve le docteur Madeleine Garba. Madeleine Garba, bonjour.
Bonjour.
Oh, la ligne est lointaine. On va quand même tendre l'oreille pour bien vous entendre. Vous êtes gynécologue obstétricienne à la maternité Issac Agazobi de Niamey. Quels sont les facteurs d'accouchement difficiles, docteur Madeleine Garba, dans votre maternité?
Excusez-moi, vous pouvez répéter la question ?
Oui, les facteurs d'accouchement difficiles chez les femmes que vous recevez dans votre maternité.
Mais les facteurs, c'est déjà la préparation à l'accouchement. Bon, il faut dire que culturellement, nous ici, les femmes, elles sont préparées parce qu'il n'y a pas d'accouchement sans douleur en Guinée. On ne fait pas de péridurale. Donc, les femmes, elles sont préparées, n'est-ce pas, pour accoucher, hein, n'est-ce pas, bon, malheureusement, dans la douleur. Bon, le problème également, c'est au niveau des consultations prénatales, quand on voit que beaucoup de femmes nous arrivent, elles n'ont pas du tout bénéficié de consultations prénatales. Donc, souvent, effectivement, on n'a pas pu analyser dans sa globalité le dossier. Hein, d'accord, comme vous le dites, effectivement, est-ce que cet accouchement peut se faire par voie basse? On n'a pas tous les éléments. On voit effectivement qu'on n'a pas de. Ici, on ne fait pas souvent, on ne fait même pas de radiopelvimétrie, hein, n'est-ce pas? Et l'estimation du poids fœtal n'est pas systématique. Donc, bon, on se base vraiment sur la clinique, hein, sur l'examen clinique pour l'appréciation, hein, du pronostic de l'accouchement. Donc, effectivement, donc ce qui serait intéressant, c'est cet accompagnement, surtout chez les jeunes qui accouchent pour la première fois, qu'elles puissent être bien suivies pour une meilleure appréciation, hein, n'est-ce pas, pour porter un meilleur pronostic à l'accouchement.
Docteur Garba, est-ce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui accouchent à la maison au Niger, hein, on le souligne bien sûr, ce n'est pas un choix de la part de ces femmes, c'est parce que ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent encore en dehors de l'hôpital ou des centres de santé?
Ah oui, malheureusement, en fait, parce que quand on voit le pourcentage de l'accouchement assisté, ce n'est que de 40%. Donc, les 60% qui restent, soit elles accouchent bon, dans des conditions effectivement qui ne sont pas idéales, hein, par soit la famille, un membre de la famille ou une matrone. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Hein, d'accord. Donc, tout ce pourcentage-là de 60%, l'accouchement n'est pas dans les conditions idéales.
Avec forcément, voilà, avec forcément une incidence sur le taux de mortalité maternelle très important. Vous avez des chiffres sur cette mortalité maternelle pour le Niger?
Ah oui, actuellement, ce taux, il est de 520 quand même décès pour 100 000 naissances vivantes. Il est encore élevé. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, hein, parce qu'avant, c'était presque le double, hein, il y a une quinzaine d'années. Hein, il est en train là, de baisser.
520 pour 5 000, ça fait 10% de mamans qui meurent en couche. C'est énorme.
Ah oui, c'est beaucoup.
C'est sur 5 000 ou sur 100 000?
Sur 100 000.
Sur 100 000, oui. C'est beaucoup plus qu'en... C'est énorme par rapport à ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France, on est à combien en mortalité maternelle?
À peu près 9 pour 100 000, c'est-à-dire 50 fois moins.
50 fois moins.
Et on ne parle que de la mortalité maternelle, parce qu'il y a de la mortalité infantile bien plus importante en Afrique à cause de la naissance.
Avec des bébés qui décèdent lors de cette mise au monde très difficile. Comment, selon vous, on peut changer les choses? Comment, selon vous, on peut limiter cette mortalité maternelle et infantile, docteur Garba?
Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de stratégies, hein, donc les stratégies déjà au niveau de la famille, une bonne sensibilisation, il y a une stratégie qui marche bien, l'école des maris, pour sensibiliser déjà au niveau familial, aussi bien le mari surtout, pour qu'il adhère à cette meilleure, à une meilleure prise en charge de son épouse, hein, n'est-ce pas? Au niveau de la communauté, finalement, il faut s'appuyer sur les chefs traditionnels et également donc les différentes stratégies prises en place.
Docteur Madeleine Garba, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à la maternité Issaka Gazobi de Niamey. On entend bien sûr les conditions de travail, les conditions totalement différentes entre ce dont peuvent bénéficier les femmes en France et nos auditrices, par exemple, au Niger. Est-ce que, justement, cela met en perspective ce débat? C'est pas pour autant qu'il n'a pas lieu, ce débat. Est-ce que ce débat sur les conditions d'arrivée du bébé, en particulier les accouchements traumatiques, c'est quelque chose qui anime beaucoup la communauté des sages-femmes?
Oui, c'est un sujet vraiment important qui est souvent soulevé par les patientes elles-mêmes. Donc, c'est souvent nos patientes qui viennent nous voir en nous donnant des projets d'accouchement, des projets de naissance, comme on les appelle. Donc, c'est lorsqu'elles ont réfléchi pendant la grossesse à un projet, elles peuvent faire un écrit et venir se présenter le jour de l'accouchement avec ce petit papier qui explique un petit peu qui elles sont et ce qu'elles souhaitent pour la naissance, pour que ça se passe bien pour elles. C'est pas forcément un accouchement 100% naturel qu'elles souhaitent. Elles peuvent également souhaiter une péridurale. On a même certaines patientes, mais c'est assez difficile à intégrer au niveau de la façon d'exercer à l'hôpital, qui souhaitent des césariennes programmées, qui n'ont pas de projet d'accouchement par les voies naturelles. Et dans ce cas-là, quand le projet peut être respecté, on ne part pas du tout sur une naissance qui est traumatisante, même s'il y a une médicalisation. Dans ma pratique de sage-femme libérale, c'est un peu différent de la pratique hospitalière, car nous, on a beaucoup plus une vision physiologique de la naissance et de l'accompagnement des couples. On est énormément dans l'accompagnement. Tout à l'heure, j'expliquais que mes collègues hospitalières avaient 4 ou 5 patientes à gérer le jour de l'accouchement en même temps. Moi, j'en ai une à la fois. Donc, j'ai vraiment beaucoup plus de temps à passer avec elles pour permettre à ce projet de se réaliser au mieux et à l'accouchement d'être le plus naturel possible sans prise de risque.
Alors, on va écouter un autre témoignage. Là, c'est celui de Francine. Francine qui nous appelle du Cameroun de Douala. Bonjour, Francine.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai eu face à un accouchement en 2015. Le 15 novembre 2015. Donc, j'ai fait un garçon, mais ce n'était pas facile. Parce que les contractions m'ont tellement dévastée. Et sur quoi mon fils est sorti avec un petit poids de naissance et il m'a tellement déchirée. Donc, au moment de la suture, puisque j'ai eu d'abord la peine avec les contractions et au moment de la suture, c'était pas facile puisque les sages-femmes qui m'accompagnaient n'étaient vraiment pas gentilles puisque la suture s'était faite sans anesthésie. Et ce qui fait que j'avais encore, en dehors des douleurs de l'accouchement que je venais d'avoir, il fallait ajouter à cela les douleurs de la suture. Donc, ce n'était pas facile au point où entre elle et moi, c'était vraiment un affrontement. Donc, ce qui fait qu'elle me piquait les paumes de main avec les guides de la suture parce que je criais tellement de douleur. Je suppliais même cette dernière, pardon, qu'elle fasse un nécessaire pour anesthésier, qu'elle n'essaye pas de me suturer comme ça. Mais ce n'était pas son problème. Ce n'était vraiment pas son problème. Sur quoi, en plus, elle a eu à oublier une serviette hygiénique dans mon vagin. Et ça me faisait tellement saigner. Le lendemain matin, il fallait encore repartir, remonter sur une table d'accouchement pour qu'une autre sage-femme puisse réenvoyer les mains dans mon vagin pour ressortir cette serviette qui était oubliée dans mon vagin.
Aujourd'hui, Francine, est-ce que vous avez des séquelles, au-delà bien sûr de ce que vous venez de nous dire, hein, ce choc pour vous, ce choc pour l'arrivée de votre petit garçon, est-ce que vous avez encore des séquelles physiques de cet accouchement?
Bon, je ne sais pas si c'est ça qui a eu un impact sur ma vie, c'est ça parce que je n'arrive même pas à entretenir normalement les rapports sexuels. Je ne sais pas. Parce que j'ai du temps, je veux vraiment entretenir des rapports sexuels avec mon partenaire. Je commence déjà à pleurer des douleurs.
Docteur Christian Audou, on entend Francine qui est vraiment bouleversée par cette naissance, son corps qui a souffert, une relation avec des femmes qui étaient censées être bienveillantes, qui a tourné à l'affrontement. On peut le dire, là, c'est une scène proprement incroyable, pourtant qu'elle a vécu une vraie scène de traumatisme.
Oui, et d'ailleurs le terme de bouleversement que vous utilisez, il vient très à propos parce que d'une certaine manière, que ce soit pour cette dame ou pour un grand nombre d'autres parturientes qui se sont trouvées dans des contextes d'accouchement traumatique, le terme de bouleversement, il convient parfaitement. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, c'est le passage d'un monde attendu, comme on le disait tout à l'heure, comme étant un des plus beaux jours, et qui se transforme en quelque chose que dont on entend tout à fait la description de calvaire. Il y a donc dans les suites de ça toujours un travail de deuil extrêmement complexe à accomplir, puisque c'est le deuil d'un événement idéalisé et d'un accouchement, disons, parfait, et qui est ce travail de deuil fait passer par un moment de nostalgie, hein, la nostalgie d'un temps qui était attendu comme étant idéal, de nostalgie et d'assombrissement pour l'avenir.
Hein. Francienne, vous avez quelqu'un à qui en parler autour de vous? Vous avez des recours dans la famille pour justement essayer d'essayer tant que faire se peut d'évacuer un petit peu toute cette peine, tout ce traumatisme?
Oui, j'ai ma maman qui essaye un peu de me soutenir parce que, tu sais, c'était pas elle, puisque même avec elle là-bas à l'hôpital, là, elle a eu des affrontements avec ses sages-femmes parce que la pharmacienne de l'hôpital a suivi tout ce qui se passait. Elle a dit à ma maman que, madame, c'est votre enfant qui est dans la salle là. Dites à ces infirmières que si ça ne va pas, si elles ne peuvent pas, qu'elles appellent au gynécologue ou qu'elles refaient l'enfant à l'hôpital à Pintigny.
Ça veut dire que pendant votre accouchement, le médecin n'est pas venu, ce sont juste les sages-femmes qui se sont occupées de vous?
Juste les sages-femmes. Et ce qui m'a bloqué dans tout ça, c'est que je suis arrivée, j'étais la seule parturiente. Celles qui sont venues me trouver accouchaient sans problème et sortaient. Mais moi, j'étais toujours là à me tordre de douleur.
Merci beaucoup, Francine, pour ce témoignage. Ce sera peut-être le mot de la fin, docteur Olivier Ami. C'est que dans certains cas, on l'a entendu en tout cas avec cette auditrice Francine, le recours à un médecin est absolument indispensable.
Moi, je crois que toute l'Afrique témoigne du manque de moyens et des défauts d'accès aux soins pour lesquels la formation n'apportera pas grand-chose. On peut se poser quand même la question de l'empathie des soignants, c'est vrai qu'il n'y a pas d'épreuve d'empathie en première année de médecine, c'est bien dommage, ni en première année de sage-femme, mais le fait est que tout le monde ne travaille pas comme ça non plus, donc je ne peux que inciter Francine et même Mazda qu'on a entendu tout à l'heure à retourner discuter de ce qui s'est passé, parce que dans toutes les situations où on se sent impuissant, où on est dans l'incompréhension alors qu'on est face à un risque de mort ou de traumatisme pour soi-même ou pour quelqu'un de très proche comme un enfant, comme une hémorragie, comme tout ce qui a pu être cité.
Il faut conclure, oui.
Il faut impérativement ouvrir la parole parce que c'est très important.
On l'a compris, hein, la communication. Merci à vous trois d'avoir participé à Priorité Santé. Julie Douchesse, docteur Olivier Ami, docteur Christian Audou. Tout de suite, notre rendez-vous du jeudi. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes sexologue et nous vous retrouvons comme tous les jeudis hein, pour une chronique. Vous avez choisi de donner des conseils à nos auditeurs au sujet de l'infidélité. Comment réagir en cas d'infidélité?
Déjà avant de répondre à la question, je voudrais dire qu'on n'utilise pas tellement le mot infidélité quand on est sexologue. On parle plutôt de relations extra-conjugales, tout simplement parce qu'on ne voudrait pas poser un jugement moral. Et les mots, c'est très important. Vous savez qu'autrefois, on parlait même d'adultère, ce qui est un mot encore plus fort. Et moi, j'ai eu un patient qui parlait toujours de l'adultère de ma femme par-ci, l'adultère de ma femme par-là. Et donc, il n'arrivait pas à en parler autrement. Pourtant, ça peut aider de parler plutôt d'une relation extra-conjugale parce que c'est moins lourd à porter.
Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, on essaie de minimiser?
Alors non, il ne faut pas minimiser, mais simplement c'est déjà quelque chose qui est difficile à vivre, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter avec les mots au risque de se faire encore plus mal.
Alors, premier point, comment réagir? Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de l'apprendre?
Alors, le plus important, c'est de ne pas prendre une décision à vif, parce qu'on se sent choqué, en colère ou anéanti, et il ne faut pas prendre de décision rapide sur le coup des émotions, parce qu'on pourrait prendre une mauvaise décision.
Comme par exemple, décider de but en blanc de se séparer, ou après, justement, de le regretter.
Exactement. Et d'ailleurs, le risque inverse existe aussi. On peut se dire, bon, ben, ça peut arriver, je passe l'éponge, alors qu'on est très blessé, que votre couple vous détruit et que la meilleure solution, ça serait peut-être une séparation. Donc, il faut réfléchir.
Réfléchir, on a envie de dire facile à dire, mais comment faire justement quand on doit attendre avant de retomber sur ses pieds, essayer de prendre une bonne décision?
Alors, déjà, il faut attendre, parce qu'il faut attendre que les émotions soient apaisées et que la crise aiguë soit passée. Et en général, ça demande un certain temps, souvent quelques mois. Mais quand on est en couple depuis longtemps, ça vaut le coup d'attendre quelques mois, d'avoir réfléchi.
Réfléchir à quoi ?
Alors, il faut déjà réfléchir à la situation. Se dire, mais cette relation extra-conjugale, c'est quoi ? En prenant les deux extrêmes, c'est pas du tout la même situation si vous vous apercevez que votre mari mène une double vie et qu'il a des enfants avec une autre femme, ou si un soir où il avait bu, il a eu exceptionnellement une relation sexuelle avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas et qu'il a jamais revu. Donc, entre ces deux situations, il y a toutes sortes de situations différentes, la liaison durable ou une relation extra-conjugale occasionnelle, et donc c'est pas du tout pareil.
Essayez de réfléchir à ce qui s'est passé, peut-être aussi à pourquoi ça s'est passé, les raisons de cette relation extra-conjugale.
Voilà, c'est très important de comprendre ce qui s'est passé, parce que la question c'est, est-ce que les causes sont au niveau du couple ou au niveau de la personne qui a eu cette relation extra-conjugale ? Je vais m'expliquer plus clairement. Si dans un couple, vous vous dites, on s'était éloigné émotionnellement, on passait pas beaucoup de temps ensemble, on espaçait nos relations sexuelles, eh bien ça a pu entraîner une impression de votre partenaire d'être délaissé, et ça a augmenté le risque de relation extra-conjugale. Et c'est peut-être pour ça qu'il est passé à l'acte. Et donc, ça veut dire qu'on se remet en question. On se dit, est-ce que je suis pour quelque chose dans cette crise ? Et je pense à un de mes patients qui m'a dit à ce propos il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je me rends compte que je n'ai jamais su aimer ma femme et je comprends même pourquoi elle a eu cette aventure. Et pourtant, cet homme-là, il souffrait beaucoup. Donc, à partir de cette remise en question, cette infidélité peut être une crise qui va faire repartir le couple sur des meilleures bases, à condition d'être capable d'avancer à deux.
Alors, est-ce que la personne trompée est toujours en cause ? Est-ce qu'elle doit se culpabiliser ?
Non, alors, elle n'est pas toujours en cause. Elle peut être en cause parce que le couple n'était pas assez proche pour être solide, disons. Mais certaines personnes ont des relations extra-conjugales simplement pour se rassurer, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, ou parce qu'elles ont peur de l'exclusivité sexuelle, ou encore parce qu'elles souffrent d'addiction sexuelle. Donc, se poser des questions, ça ne veut pas dire « je suis forcément coupable de quelque chose, il faut chercher de quoi ».
Alors là, on a pris le temps de mettre tout sur la table, de penser à ce qui s'est passé. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, c'est plus facile pour la conduite à tenir ?
Oui, alors souvent, quand on a réfléchi et qu'on a laissé passer le temps et les émotions très fortes du début, on arrive beaucoup plus facilement à faire un choix, à prendre une décision, soit de continuer, soit de donner une chance à l'autre, mais de lui dire c'est pas garanti à vie, soit de carrément de se séparer. Mais pour se poser les bonnes questions, on peut aussi avoir besoin d'en parler à quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un psy ou une personne de confiance, même un proche, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui cherche pas à vous influencer, mais qui vous aide à trouver quelle est la meilleure solution pour vous.
Alors, c'est quoi le mieux ? C'est de chercher à pardonner, avancer ?
Alors, souvent, pardonner, c'est vraiment une bonne chose et continuer à avancer en couple aussi. Mais en revanche, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, en restant, vous ne vous respectez pas vous-même. Et si vous avez des enfants, vous allez leur donner une image très très négative du couple et c'est pas du tout bon pour leur construction psychique. Pour eux, quand ils sont enfants, mais aussi pour le jour où ils vont former un couple, parce qu'ils auront eu sous les yeux un couple dysfonctionnel. Donc, rester et pardonner, c'est souvent la meilleure solution, mais pas toujours.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Le docteur Catherine Solano est là pour répondre à vos questions. C'est Dido qui est en ligne de Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonjour Dido.
Bonjour, je vous présente.
On écoute votre question Dido.
Oui, j'avais demandé au docteur le produit Viagra, effectué pour les patients de quel âge ?
Quel âge pour utiliser le Viagra, Catherine Solano ? À tout âge, à un certain âge, plus de 50 ans ?
Alors, le Viagra, ça peut être utilisé à tout âge. Dans la notice, on dit à partir de 18 ans. Parce qu'évidemment, un enfant de 7 ans, il va pas utiliser du Viagra, c'est logique. Mais on peut l'utiliser même quand on est un homme très jeune. Parce que, en fait, souvent, beaucoup de personnes pensent que ça s'utilise uniquement chez les hommes âgés. Et c'est faux.
Et c'est faux parce que il arrive même que quand on est jeune, certains hommes aient des problèmes d'érection.
Oui, exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes d'érection peuvent avoir deux causes différentes. Soit elles sont lues elles sont dues à des problèmes de santé. Par exemple, le diabète favorise les troubles de l'érection. Au bout de 20 ans de diabète, surtout pas au tout début. Hein. Quand on fume, quand on est en surpoids, quand on fait pas de sport du tout, quand on mange mal, quand on a du cholestérol. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui abîment l'érection. Et forcément, ça arrive plus souvent quand on est âgé. Parce que si c'est au bout de 20 ans de tabagisme, ou 20 ans de diabète, bah, c'est plutôt les hommes âgés. Donc, c'est pas tellement l'âge qui empêche d'avoir des bonnes érections, c'est plutôt les problèmes de santé. Parce qu'un jeune qui fume et qui a plein de problèmes de surpoids, qui fait pas de sport, il peut aussi avoir des problèmes d'érection. Du coup, on peut en donner chez des hommes jeunes.
Alors, est-ce qu'on prend du Viagra de la même façon quand on a 18 ans, quand on a 50 ans ?
Eh bien, pas tout à fait. Les hommes jeunes, en fait, en général, leur problème d'érection n'est pas dû à un problème de santé, c'est dû au stress. Ils ont peur de pas être à la hauteur, ils ont peur d'avoir une panne, ils ont peur que la fille les quitte si jamais ils sont pas à la hauteur. Et du coup, ils sont stressés. Et le stress, ça bloque l'érection. Donc, le Viagra, dans ces cas-là, eh bien, ça marche très bien, mais on le prescrit pour une durée limitée. On va leur dire, vous le prenez pendant une dizaine de rapports sexuels, avant chaque rapport sexuel, et une fois que la machine est partie, ils ont repris confiance et ils n'en auront plus besoin. Donc c'est juste pour quelques petites durées, pour quelques rapports sexuels.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accoutumance ?
Non, il n'y a aucune accoutumance avec ce médicament. Alors, il y a quand même des hommes qui disent, moi j'ai peur que si j'arrête, j'ai des pannes. On peut dire que ça peut être une espèce d'accoutumance psychologique, mais c'est même pas une accoutumance, c'est une peur. Mais au niveau chimique, il n'y a aucun risque.
Catherine Solano, hein, qu'on retrouve tous les jeudis dans Priorité Santé. Docteur Catherine Solano. Et notre émission touche à sa fin. Demain dans Priorité Santé, à l'occasion de la journée mondiale du bégaiement, nous reviendrons sur ce trouble de l'élocution, trouble de la communication. Si vous voulez témoigner, posez vos questions, bien sûr, le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.